Bonjour, nous allons donc pouvoir aujourd'hui terminer le chapitre sur les applications matricielles. Nous étions arrêtés à la notion de rang, qui est pour une matrice la dimension de son espace image. C'est donc un nombre. Donc, je vous rappelle qu'on a une matrice, un tableau de nombres, qui elle représente une application linéaire entre deux ensembles, deux espaces vectoriels. Et le rang de cette matrice, c'est un peu une notion de taille de cette matrice. Cette taille est liée aux dimensions de la matrice, à son nombre de lignes et son nombre de colonnes, notamment par le théorème du rang. Je vous rappelle que le nombre de colonnes de la matrice est égal à la dimension du noyau plus le rang, c'est-à-dire plus la taille de l'image. On avait vu qu'il y avait une démonstration sur laquelle on ne s'était pas encore arrêté, mais je pourrais revenir avec les questions. La première propriété qui nous restait à faire encore, c'est donc l'inégalité sur le rang du produit. On a une relation entre le rang du produit et le rang de chacun des facteurs, c'est-à-dire que le rang du produit est forcément inférieur ou égal. On peut le penser comme si le rang d'une matrice était une sorte de taille de tuyau, et quand on multiplie les matrices, ça veut dire qu'on enchaîne les tuyaux de correspondant à chaque matrice, et forcément la taille maximale des objets par lesquels on peut faire passer par un tuyau, ben ça va être la taille maximale la taille minimale des tuyaux. Donc c'est une sorte de version plombière du maillon faible d'une chaîne. Comment est-ce qu'on montre cette inégalité? En montrant séparément que le rang de AB est inférieur au rang de A et au rang de B. Donc s'il est inférieur aux deux, il sera forcément inférieur au plus petit des deux. Et pour démontrer l'inégalité entre les rangs, on démontre une inclusion entre les espaces vectoriels. Ça va être un moyen simple d'obtenir l'inégalité sur les rangs, parce que forcément si l'espace image de AB est inclus dans l'espace image de A, la dimension du premier sera inférieure ou égale à la dimension du deuxième, donc ça nous donnera l'inégalité sur les rangs. Comment est-ce qu'on fait pour le démontrer? C'est très simple, on prend un élément dans l'image de AB et on va montrer qu'il est aussi dans l'image de A. Prendre un élément Y dans l'image de AB, ça veut dire qu'il existe un antécédent, une colonne X telle que Y égale AB fois X, et du coup ça s'écrit A fois BX, donc A fois quelque chose, c'est dans l'image de A. Par conséquent, on a l'inclusion entre les espaces, et donc on a l'inégalité entre les rangs. Pour la deuxième inégalité, on est tenté de faire de la même manière, montrer que l'image de AB est inclue dans l'image de B. Mais ça, ce n'est pas possible pour une raison très simple, c'est que, a priori, ces deux images, l'image de AB et l'image de B, ne vivent pas dans le même espace. En effet, l'image de AB est composée de vecteurs avec n composantes, alors que l'image de B est composée de vecteurs avec P composantes. Donc ces deux images ne sont pas incluses dans le même espace, donc on ne peut pas parler d'inclusion entre l'une et l'autre. Non, l'astuce c'est de penser au noyau. Parce que là, le noyau de B et le noyau de AB, ils sont tous les deux composés de vecteurs colonnes avec Q composantes. Et on a une inclusion entre les deux. Ça, c'est pas évident. On regarde, ça se démontre en une ligne. À chaque fois qu'on prend un élément dans le noyau de B, à ce moment-là, quand on calcule AB fois ce vecteur-là, cette colonne, ça nous fait A fois BX, donc A fois 0, et donc ça fait 0. Et donc on a bien X qui est dans le noyau de AB. Cette inclusion entre les noyaux nous donne une inégalité sur les dimensions, et là, le théorème du rang arrive à la rescousse et nous permet d'écrire Q moins le rang de B inférieur ou égal à Q moins le rang de AB. On transforme cette inégalité en éliminant les Q et en intervertissant, en changeant de signe. Ça nous donne bien que le rang de AB est inférieur au rang de B. De cette propriété, on va déduire assez rapidement que toute matrice est de même rang que son produit avec une matrice inversible, c'est-à-dire multiplié par une matrice inversible ne change pas le rang. Pour ça, on va prendre une matrice quelconque, AA, qui va avoir n lignes et m colonnes, et on prend deux matrices inversibles pour multiplier à gauche et à droite. J'en prends deux différentes parce qu'a priori, elles ne peuvent pas avoir la même taille. Et on a, par la règle juste au-dessus, que le rang de a fois p fois p moins 1, je rappelle que p est inversible, est inférieur au rang de a fois p, qui est inférieur au rang de a. Mais comme a fois p moins 1, c'est la même chose que a, on obtient bien l'égalité entre les rangs. Et de la même manière, on obtient bien que le rang de a est égal au rang de q fois a, en écrivant les produits, cette fois-ci, par multiplication à gauche, par une matrice inversible. On définit ensuite les matrices équivalentes. Alors, il ne s'agit pas ici d'équivalence logique, on ne va pas avoir de double flèche. Il y a une raison, en fait, que l'adjectif équivalent soit utilisé ici comme pour l'équivalence logique. C'est l'équivalent. La notion d'équivalent est une notion en mathématiques qui est assez importante, parce qu'il y a plusieurs notions qui satisfont les trois conditions qu'on va voir dans la propriété juste après. Dès qu'on a ces trois conditions, il s'agit d'une relation d'équivalence. Ici, il faut bien retenir qu'une matrice n'est pas équivalente toute seule. On parle toujours d'une matrice équivalente à une autre, exactement comme ça n'a pas de sens de dire que vous êtes voisin. Vous êtes voisin de quelqu'un d'autre, mais vous tout seul, vous n'êtes pas voisin dans l'absolu. Donc cette relation, ce qui définit une relation d'équivalence, c'est qu'elle est réflexive. Toute matrice est équivalente à elle-même. De la même manière, chaque nombre est inférieur ou égal à lui-même. On avait dit que la relation de comparaison des nombres était réflexive aussi. Mais on sait que la relation d'équivalence ici va être aussi symétrique. Si A est équivalent à B, alors B est équivalent à A. Ça, ce n'était pas vrai pour l'inégalité de comparaison. Si un nombre est plus petit qu'un deuxième, le deuxième n'est pas forcément plus petit que le premier. On avait une notion d'antisymétrie, là on a une notion de symétrie, qui pourrait être rapprochée de la notion de commutativité, sauf qu'il ne s'agit pas ici d'une opération, il s'agit d'une relation, donc on ne parle pas de commutation ici. Enfin, on a la propriété de transitivité, si A est équivalent à B, et B est équivalent à C, alors A est équivalent à C. Ça, c'est une notion qui paraît assez évidente parce qu'elle est vraie pour l'égalité, d'autres choses, mais c'est pas vrai pour toutes les relations. Par exemple, la relation de voisinage dont j'en parlais au début, elle n'est pas transitive. Si une personne A est voisine d'une personne B et que la personne B est voisine d'une personne C, ben A n'est pas forcément voisin de C. En tout cas, si vous êtes sur la même rangée, a priori, on va considérer que ce n'est pas le cas. Pour démontrer ceci, il nous faut des matrices. D'abord, une seule pour avoir la réflexivité. Une matrice est équivalente à elle-même. Ben, c'est très facile à obtenir par multiplication par l'identité. Les identités sont inversibles et donc on obtient bien une relation comme dans la définition des matrices équivalentes. Pour la symétrie, on suppose que la matrice B est équivalente à la matrice A, donc on a une relation de la forme B égale Q moins 1 à P. Et par multiplication par l'inverse, on va pouvoir isoler A et obtenir A égale Q moins 1 moins 1, B, P moins 1. Attention à bien faire les multiplications du bon côté. Pour éliminer le P à droite, on multiplie par P moins 1 à droite. Pour éliminer Q moins 1 à gauche, on multiplie par l'inverse de Q moins 1, qui est égal à Q en fait, à gauche. Enfin, la dernière propriété, à savoir la propriété de transitivité, on l'écrit en prenant une matrice B équivalente à A, donc qui s'écrit sous la forme B égale Q moins 1 AP, une matrice C équivalente à B, donc qui s'écrit S moins 1 BR, a priori les matrices P et Q ici, je ne peux pas prendre les mêmes, donc on prend d'autres matrices inversibles pour coller à gauche et à droite. Et du coup, en remplaçant dans l'expression de C l'expression de B, on va trouver S moins 1, Q moins 1, A, P, R. P, R, c'est un produit de matrice inversible, ça va faire encore une matrice inversible. Et S moins 1, Q moins 1, c'est l'inverse d'une matrice inversible, parce que c'est le produit des inverses. C'est l'occasion de revoir au passage que l'inverse du produit, c'est le produit des inverses, mais en renversant l'ordre des facteurs. Propriété suivante, toute matrice de rang R est équivalente à une matrice qu'on appelle habituellement JNMR, dont les coefficients valent presque tous 0, sauf quelques coefficients qui valent 1 sur le début de la diagonale. Alors, je dis le début parce que on pourrait dire que ça ressemble à une matrice identité, mais les 1 ne descendent pas forcément jusqu'en bas à droite. Donc la matrice identité, c'est bien une matrice JNMR. Dans ce cas-là, on a autant de lignes que de colonnes, et le rang correspond au nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc on pourrait dire que la matrice IN, c'est JNNN. Là, de façon générale, on a une matrice qui n'est pas forcément carrée, et qui a des 1 qui descendent d'en haut à gauche vers en bas à droite, mais sans forcément arriver tout en bas ou tout à droite. Je passe cette démonstration pour l'instant, je reviendrai dessus avec des questions. Qu'est-ce que nous a dit cette propriété? Ça veut dire qu'on peut classifier en fait toutes les matrices de taille nm, n lignes et m colonnes, à partir de leur rang, en groupes qui sont toutes équivalentes entre elles. Et c'est la propriété que je détaille dans la partie suivante, c'est que deux matrices sont équivalentes si elles ont le même rang. Donc c'est une équivalence, on procède par double implication. À gauche, si deux matrices sont équivalentes, dans ce cas-là, on a une relation de la forme A égale Q-1BP. Et du coup, A est obtenu à partir de B par multiplication par des matrices inversibles. On a vu juste au-dessus que multiplier par des matrices inversibles, ça ne changeait pas le rang. Donc nos deux matrices ont le même rang. Réciproquement, si on a deux matrices de même rang, alors elles sont toutes les deux équivalentes à la même matrice JNMR. Par symétrie et transitivité, deux matrices équivalentes à une même troisième sont aussi équivalentes entre elles. Et donc, on a montré l'équivalence de ce résultat. Propriété suivante, toute matrice a le même rang que sa transposée. On prend une matrice de rang R. Elle est équivalente à JNMR d'après la propriété encadrée juste au-dessus. Donc sa transposée est équivalente à la transposée de JNMR, c'est-à-dire JMNR. Le nombre de 1 n'a pas changé, mais le nombre de lignes est devenu le nombre de colonnes, et le nombre de colonnes est devenu le nombre de lignes. Et JMNR, son rang, ça se voit tout de suite, c'est R. Donc le rang de AT, c'est R comme le rang de A. Qu'est-ce que ça implique tout ceci? Ça veut dire que le rang d'une matrice, on peut le calculer à partir de l'espace vectoriel engendré par les colonnes, mais on peut aussi le calculer à partir de l'espace vectoriel engendré par les lignes. Le rang d'une matrice, c'est donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces lignes. Et ça nous donne tout de suite la dernière propriété de ce cours, à savoir que toute matrice échelonnée a pour rang son nombre de lignes non nulles. J'ai mis un lien pour vous rappeler qu'une matrice échelonnée, ça voulait dire que comme dans un système échelonné, les premiers coefficients sur chaque ligne, ils sont de plus en plus loin. Comme dans une matrice triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale, par exemple, on a à chaque fois un décalage d'une ligne à l'autre qui fait que le premier coefficient non nul arrive de plus en plus loin. Et je vous ai mis encore un lien pour rappeler que des lignes échelonnées forment forcément une famille libre. Donc les lignes non nulles forment une famille libre. Elle forme forcément une famille génératrice de l'espace vectoriel engendré. Comme c'est une famille libre et génératrice, c'est une base. Et donc le nombre de ces lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré, c'est-à-dire le rang de la matrice.